Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Le journal de ma vie, saison 2.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
20 août 2020.
Je suis peut-être tombée amoureuse de lui parce qu'il avait toujours la bouche sucrée.
Idée ce matin pour un titre, celui qui n'essaie pas.
Une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.
Une nouvelle saison disponible à partir de vendredi 26 septembre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Dans quelques jours, lundi 6 octobre, s'ouvrira à Nîmes le procès en appel de ce qu'on appelle l'affaire des viols de Mazan, ou parfois le procès Pellicot, et qui s'est tenu à Avignon entre le 2 septembre et le 19 décembre 2024. 51 hommes ont alors été reconnus coupables pour la plupart de viols sur Gisèle Pellicot, alors qu'elle était endormie à son domicile de Mazan entre 2011 et 2020. Et ce à l'instigation de son mari, Dominique Pellicot. 16 des 51 condamnés ont ensuite fait appel, mais ils se sont désistés les uns après les autres, et il ne reste aujourd'hui qu'un homme, un seul, de 44 ans, condamné à 9 ans de réclusion, et qui ne contestera, à partir de lundi, que le quantum de sa peine et non sa culpabilité. Entre-temps, Gisèle Pellicot est devenue une icône féministe, un symbole mondial, pour avoir notamment refusé que le procès se tienne à huis clos, pour que la honte change de camp. Un procès qui a été une onde de choc dans la société française, dans les consciences, celles des hommes et des femmes, dans les foyers, dans les médias, dans l'intimité des couples. Rarement une affaire aura fait bouger les lignes à ce point. Réfléchir aussi collectivement à la notion de consentement, à la définition du viol, à la soumission chimique, à une société quand même un peu malade. Dans Les Pieds sur Terre, on a trouvé deux personnes très différentes, des citoyens lambda, qui ont été profondément bouleversés par ce procès, dont la vie en a véritablement changé. On les écoute tout de suite au micro de Manon Prigent.
Bonjour monsieur.
Oh, oui, installez-vous, il arrive.
Allez,
papa. Ça va, ma frère. J'ai pas vu ta soeur, mon vieux. Bisous, ma cœur.
Je m'appelle Youssef, j'ai 48 ans. Je tiens la brasserie du Palais rue Guillaume-Puy, à Avignon. J'ai ouvert ce bar le 1er mars 2024. Moi, j'ai entendu parler de ce procès qu'elle a arrivé. Procès de Mazan, mais je voyais pas l'ampleur qu'il avait en fait. Je suis pas trop aux journaux, je lis pas les journaux quoi. Le premier jour, ça a été spécial, on sentait de la tension. Parce que moi, je suis devant le tribunal. Bon, au début, tout le monde se posait des questions, le nombre de personnes, Madame Pellicot, on se posait des questions quoi. C'était pas possible qu'elle s'en aperceve pas, qu'elle était pas au courant. On croyait que c'était un jeu de libertinage. Quand ça a commencé en septembre, il y avait des accusés, des juges, avocats qui venaient boire le café et manger à midi dans mon bar. Bon, on ne connaissait pas les accusés. Au début, il y en avait un, deux, après c'était quatre, cinq. J'ai vu tous ces journalistes du monde entier qui sont venus, qui passaient avec leur caméra, leur micro, ils étaient tous excités. Entre midi et deux, le matin, le soir, je les voyais courir au bar pour faire leurs articles. Et c'est là où j'ai commencé à voir l'ampleur du procès, quoi. Et au fur et à mesure de ce procès, j'ai compris, oui, elle dormait pour de bon. Nous, on croyait qu'elle dormait pas au début. Quand on entendait les avocats, les journalistes dire, elle ronflait. Quand j'ai entendu qu'il fallait se laver les mains, qu'il fallait pas qu'il y ait l'odeur de cigarette, fallait pas, on n'était pas au courant de tout ça. Là. Ça devenait écœurant. Déjà, je me pose des questions, là. C'est pas possible. Là, on voit le dossier, quoi, l'affaire. Et là, ça donne à réfléchir, à penser à notre mentalité d'homme, déjà. Comment pense l'homme ouais, c'est ma propriété, quelque part. C'est la propriété du mari. Que non. Après voir les accusés rigoler, qui prenaient le petit déjeuner, qu'arriver à manger, comment dire, ça m'oppressait en fait. De servir, c'est mon travail, mais il me gênait. J'étais pas bien, j'arrivais pas à leur dire parce que je suis un établissement public. Pour dire à quelqu'un je te sers pas, c'est pas évident. J'avais peur d'avoir des problèmes aussi. Les accusés, c'était un petit groupe. Je pense qu'ils sont devenus copains pendant le procès. Il y en avait qu'un qui n'était pas mélangé avec eux, c'était ce jeune. C'est celui-là qui venait le matin à 7h moins le quart. Dès qu'il voyait du monde arriver, il partait. On sentait qu'il avait honte. Parce qu'après, je ne le revoyais plus de la journée, ce qu'au lendemain. Ouais, comme s'ils étaient tous comme ça, c'est la rigueur. Mais les autres, non, ils étaient. Pour eux, ils n'avaient pas fait de bêtises. Ils buvaient des bières, ils discutaient, ils rigolaient. Et j'avais l'impression qu'ils prenaient la chose à la légère, en fait. Et je voyais cette dame là, Madame Pellicot, aller manger chez mon voisin. Je la trouvais de plus en plus forte. La voir passer comme ça, les gens autour d'elle, je l'ai trouvée très forte et elle marchait la tête haute. Il ne pouvait pas voir les accusés en face d'elle, la tête haute aussi. C'est pas possible. J'étais vraiment gêné par rapport à elle. Même le matin, j'avais du mal à ouvrir. J'avais du mal à ouvrir pour ne pas les servir. J'attendais presque 8 heures pour. Sachant qu'il devait aller à 8 heures au tribunal. Comme ça, ça m'évite de les servir, quoi. Et au fur et à mesure du truc, eh ben, ça allait plus, en fait. Ma pensée et ce que je faisais, ça allait plus ensemble. J'en avais une boule au ventre. J'avais une boule au ventre. Et à un moment, je disais, eh ben, non, je vous sers plus. J'ai pas été arrogant ou méchant, non. Je pouvais aller chez le voisin à côté. Ils ont fait des gros yeux et le lendemain, ils sont partis chez le voisin à côté. Il fallait prendre sa responsabilité et dire la chose. J'ai une maman, j'ai une fille, j'ai des sœurs. J'ai fait ce que je devais faire. S'il fallait refaire, je le referais un peu plus tôt même. J'ai parlé avec des féministes qui venaient dans mon bar, j'ai discuté avec des jeunes, des moins jeunes, toutes ces femmes, il y en a plein qui se sont fait violer. Il y a beaucoup d'histoires derrière. C'est familial, c'est des amis. Elle a ouvert la porte à Gisèle. Elle a vraiment ouvert la porte aux femmes victimes de viols, surtout conjugales. C'est parce qu'il faut le faire. Il y a les enfants, il y a le nom, il y a... Je pense qu'il y a des femmes qui se retiennent parce qu'il ne faut pas faire de mal à la famille, à l'entourage. Il y en a qui vont dire qu'elles sont extrêmes, des féministes, un peu violentes, tout. Après, c'est comme tout. Il y en faut un petit peu. Toutes les manifs, il y a un peu de violence. Et s'il n'y a pas de violence, les manifs douces, à un moment donné, ça ne donne rien, quoi. J'ai vraiment changé de mentalité. Voilà, je vois la vie autrement. Maintenant, quand je parle avec une femme, j'aurais toujours cette question, est-ce qu'elle a vécu ça ?
Et ça, c'est quoi ?
Le viol, est-ce qu'elle a été déjà violée ? Est-ce qu'elle a été déjà agressée ? Quoi ? Maintenant, je comprends une femme, quand elle cause dans la rue, elle marche avec un œil derrière le dos. Je sais pas si je me comportais mal, mais maintenant, j'ai fait attention à mon comportement. Avec une femme, même la coster dans la rue, c'est belle, t'as de jolis yeux, ça, c'est fini. Si j'ai dû le faire, je l'ai fait. Mais je pourrais plus le faire. Maintenant, je parle. La dernière fois, il y en a un au bar. Le gars est en train de boire un coup. Et la fille, elle passait avec son t-shirt de foot Barcelone. Et le gars, il lui a dit « Vive Barcelone, vive Barcelone ». Il lui parle, mais sans lui parler directement, en criant. Là. J'ai personne dans la rue. Et je lui dis « Arrête, c'est pas possible. Tu sais pas, tu lui fais peur. » Maintenant, la dame, elle marche. Peut-être elle va faire le demi-tour, elle va rentrer chez elle. Elle a peur que tu la suives. On ne sait pas ce qu'elle a vécu dans sa vie, on ne sait pas si elle s'est déjà fait violer, si elle s'est déjà fait toucher. Il ne comprenait pas. Au début, il me dit, mais non, c'était parce qu'elle a dit Charles Barcelone. Je lui dis, non, ce serait un garçon qui serait passé, tu n'aurais pas dit vive Barcelone, ou tu as un beau t-shirt, tu ne lui aurais pas dit ça. C'est une femme, tu t'es permis de dire. D'ailleurs, il m'a envoyé un texto, il m'a dit, je m'excuse de mon comportement, tout. Je lui dis, non, tu n'as pas à t'excuser, tu as à revoir le comportement. Ce n'est même plus des excuses, c'est à revoir notre comportement. On a du boulot, c'est pas la femme elle toute seule de porter ce combat. C'était dur, la fin était vraiment, vraiment dure. Les gens, ils dégageaient des émotions, il y a des journalistes qui pleuraient, il y a des gens qui se confiaient à moi. Et Franchement, je pensais pas que ça allait m'arriver un jour, que voilà, ça allait me concerner. C'est pour ça que c'est vers la fin, ça commençait à me bouleverser en fait. Moi, j'ai très peu, dû perdre au moins 10 kilos. Le jour du verdict, les pompiers sont venus me chercher. Voilà, je faisais vraiment un blocage de dos. J'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à bouger.
Est-ce que tu, dans ton bar maintenant, quand tu regardes les hommes qui viennent, tu les regardes différemment ?
Dans mon bar, j'évite les hommes au comptoir. Parce que moi, je suis devant le tribunal, il y a beaucoup de dames qui travaillent. Alors, les gens qui restent toute la journée au comptoir, qui n'ont que ça à faire, regarder les filles passer, je leur fais comprendre, c'est pas un lieu pour eux. Je suis froid, je cache l'alcool, j'essaie d'être responsable. Et maintenant, je veux leur dire, par contre. Je te dis, c'est le dernier verre que tu bois, ça fait barre de pervers. J'aime pas. J'avais entendu cette phrase, c'était une sociologue, je crois, qui m'avait dit ça. Elle buvait un coup, elle m'a dit, c'est là le bar des violeurs, elle rigolait. Et je dis, ben, c'est pas là. C'était peut-être, mais c'est plus là.
Quand le procès Mazan vraiment commence, quoi, et qu'on en parle dans les médias, etc., tout de suite, évidemment, je replonge dans ce gros dossier que je trimballe quand même depuis plusieurs années à ce moment-là. J'ai complètement occulté ce qui s'est passé, en fait. Je m'appelle Noëlla, j'ai 32 ans, j'habite dans la Drôme, dans une ville qui s'appelle le Cray. Quand je rencontre Thomas, je dois avoir à peu près 20 ans. La première fois que je le rencontre, c'est chez lui. Parce qu'il organise un événement de rencontre de mecs qui font du BMX. Et donc c'est chez lui, dans une baraque incroyable, avec des hectares de jardin, avec une piscine, enfin un grand terrain, avec un petit lac, avec donc des grosses bosses en terre. Et je le rencontre et il est en train de creuser la terre, mettre des coups de râteau sur le sol pour fabriquer des bosses. Et puis, il fait du vélo, torse nu. Voilà, on est sur ses terres, quoi. On rigole beaucoup. Il est extrêmement beau. Il gagne très bien sa vie. Il est gérant d'une entreprise. Il y a du monde qui gravite autour de lui, quoi. Et je pense que ça me plaît aussi, ce côté entrepreneur, sportif, qui bouge, que tout le monde adore. Enfin, je suis tombée hyper amoureuse de lui et ça a roulé tout de suite, quoi. À un moment de ma vie où moi, je suis en école de commerce un petit peu perdue parce que je sors de 2 années de prépa littéraire et que j'ai vraiment rien à faire là-bas et que je perds ma tante qui décède d'un cancer des poumons très rapidement. Et du coup, quand je m'installe chez Thomas, je suis vraiment dans une période où bah, je vais mal. Il me récupère un petit peu, il me file un peu de travail... On n'avait pas trop de plans pour l'avenir, mais de fait, bah, on était amoureux, c'était bien. Je suis restée vivre chez lui, quoi. On est dans une grande maison dans laquelle il y avait plusieurs parties. Donc la grande maison de ses parents. À côté, il y avait la maison de sa grand-mère. Et puis, de chaque côté, son frère, dans un des appartements. En face, lui et moi, dans un autre appartement. C'était vraiment une vie en famille. Donc j'ai rencontré tous ses potes, je suis devenue pote avec ses potes. Et comme je venais de quitter mon école de commerce où c'était horrible, que finalement mes potes de prépa que j'avais fait avant, bah, ils étaient barrés faire leur vie et leurs études, bah, en fait j'avais pas de cercle social, quoi. J'étais perdue. Donc en fait j'étais là où il y avait une place pour moi. À ce moment-là, je me dis, en fait le seul truc qui m'intéresse, c'est d'être avec lui et c'est que ça marche. Et c'est tout ce qui compte en fait. Donc il y a une première année où en fait je travaille pas et où on a vraiment beaucoup de consommation, entre autres d'herbes, quoi. On fume beaucoup. Enfin moi je fume beaucoup alors que j'ai jamais fait ça. Je pense que je traverse une petite période de déprime, quoi. Mais j'en parle pas. C'est le début, c'est la rencontre, donc c'est chouette sexuellement, ça se passe bien. Du moins, on a des rapports réguliers. Et petit à petit, bah, moi, je suis vraiment pas bien, en fait. Je travaille pas, j'étudie pas. J'ai rien à faire de mes journées. Je fume beaucoup et du coup, je suis un peu apathique à avoir envie de rien. Je range, je fais à manger, puis je l'attends. J'attends qu'il rentre du travail. Et d'ailleurs, j'ai toujours été chez lui, en fait. J'ai jamais été chez moi. Je passais beaucoup de temps à décorer l'appartement, à essayer de me sentir chez moi. Une fois, j'ai invité un couple, ma meilleure amie et son copain de l'époque. Il les a pas accueillis. Il allait se coucher au lit alors que d'habitude, il fait pas du tout ça. Vraiment, il me montrait que le fait que j'ai une vie sociale, ça lui plaisait pas, quoi. Et du coup, ma libido, globalement, mon énergie vitale d'avoir envie de faire des choses, diminue vachement. Du coup, on couche beaucoup moins ensemble. Et surtout, j'ai mal au vestibule, c'est l'entrée du vagin qui me fait hyper mal pendant les rapports. Petit à petit, j'ai plus envie, quoi, parce que juste ça me fait trop mal. Et jusqu'à ne plus du tout avoir envie de le faire. Et jusqu'à refuser de le faire. Ça dure. En vrai, cette situation-là, elle dure pendant assez longtemps. Bah, lui, ça lui pose quand même problème. Il me fait sentir que ça lui convient pas. Il se met à avoir des comportements que je trouve bizarres, sur le coup. Le premier événement qui m'a mis la puce à l'oreille, je crois que ça a commencé par ses masturbations matinales. Vraiment, je me réveillais le matin et il était à côté de moi en train de se masturber dans le lit, quoi. À côté de moi, sur moi, et où moi j'étais en train de dormir. Et où j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, pourquoi il fait ça? Et puis après, progressivement, ensuite il y a eu le porno, l'intrusion du porno comme ça dans le salon, sous mes yeux. J'étais vraiment un peu sidérée de le voir faire ça et humiliée. Et il aurait pu attendre que je me lève, faire ça dans la salle de bain, faire ça ailleurs. Voilà. Pour moi, c'était comme un message qu'il voulait me faire passer. Et le message, c'était j'ai des besoins et tu n'y réponds pas. Et donc, je vais répondre à mes besoins, même si t'es là, en fait. Après, moi, j'ai fini par ouvrir la discussion au bout de peut-être un an en me disant, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai mal et j'ai pas envie. C'est là que j'avais ouvert la possibilité qu'il puisse voir d'autres gens, quoi. Qu'il a refusé catégoriquement. Non, lui, ce qu'il disait, c'est juste, moi, c'est avec toi que j'ai envie de le faire. Pas avec quelqu'un d'autre. Que c'est moi qui l'aime et qu'en fait, il veut pas, quoi. Donc, je vais voir des médecins. Je me dis, je vais aller voir un gynécologue qui va peut-être m'expliquer pourquoi j'ai mal, en fait, pendant les rapports. Je vais à Avignon, je prends rendez-vous, je vois un gynécologue, je lui explique que j'ai mal pendant les rapports avec mon partenaire, que j'en ai de moins en moins. Enfin, en fait, j'en avais plus déjà depuis longtemps. Donc, il m'installe sur sa chaise. Il insère ses doigts sans trop me demander mon avis. Et il me dit serrer. Il me demande de serrer, en fait, ses doigts. Et j'essaye un truc. Et en fait, il soupire et il me dit « Ah non, mais là, vous poussez, en fait. Donc, c'est sûr que ça doit être compliqué, ouais, la sexualité. » Puis ensuite, on retourne à son bureau. Il me dit qu'il n'y a rien du tout, que tout va bien. En gros, c'est dans ma tête, quoi. Et puis, il me dit, de toute façon, vous n'êtes plus amoureuse, c'est tout, mademoiselle. Sauf que moi, à ce moment-là, pour moi, c'est l'homme de ma vie, en fait. Et je l'aime plus que tout. Donc, ça colle pas du tout. Et j'en parle dans mon entourage. J'essaye d'avoir des discussions avec des proches. Et une personne proche de moi qui me dit, mais en fait, si tu continues de refuser d'avoir des rapports avec Thomas, il va te quitter, quoi. Mais il y a un moment donné où ça faisait 2 ans qu'on avait plus couché ensemble, en fait. Donc, moi, je voyais les jours et moi, je me disais, oh là là, mais ça, c'est trop. Quand je rentrais le soir, je me disais, c'est ce soir. Je me disais, c'est ce soir. Là, ce soir, il faut le faire. C'était vraiment la phrase que je me répétais. Ce soir, il faut le faire. Et en fait, il y a un premier épisode où on discute et puis je lui demande qu'on ait d'abord des rapports un peu doux au début. En tout cas, qu'on prenne vraiment le temps. Donc je lui dis peut-être qu'on peut se faire des massages. Du coup, on le fait. Il me masse, je le masse. Mais en fait, moi, j'ai toujours pas... Ça me fait pas monter l'envie, quoi. Je lui dis, je suis désolée, mais j'ai pas envie. Et en fait, là, il a pété un câble. Il est sorti de la chambre, il a mis un coup de poing dans le mur de la salle de bain, puis ensuite, il a mis un coup de poing dans la fenêtre de la salle de bain, qui s'est brisée. Moi, je me suis retrouvée en boule dans le canapé en me disant « il va me lyncher, quoi ». Puis, il a couru vers moi en me disant « non, non, mais je te ferai jamais rien, je lèverai jamais la main sur toi, je suis désolée, voilà ». Autant dire que ça n'a pas du tout fait baisser la pression que je ressentais sur le fait de devoir le faire, parce que maintenant j'avais peur. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il y a un soir où, pareil, quoi, je me dis « bon, allez, vas-y, cette fois, faut y aller ». Quoi. On s'est retrouvés dans sa chambre à tenter d'avoir un rapport, et moi, j'avais pas du tout envie, j'avais mal, et on a quand même eu ce rapport. Ça a duré, je sais pas, le temps qu'il fasse son affaire. Et je me souviens d'être complètement sidérée, en fait, de pas pouvoir bouger et puis de me répéter, mais comment il peut faire ça? Comment il peut prendre là du plaisir alors que moi, je bouge pas, que je suis pas là? Je crois que je l'ai quitté pas longtemps après. Parce que là, je pense qu'il y a eu une forme d'instinct de survie qui s'est réveillée chez moi. Je me suis dit, en fait, il faut que je m'en aille. J'ai complètement occulté ce qui s'est passé, en fait. J'ai pas mis le mot viol là-dessus tout de suite du tout. Il a fallu des années pour que je me dise « Ah, en fait, là, c'est ce que j'ai vécu, ça s'appelle comme ça. » Sur le coup, ça s'est passé. J'ai dissocié, j'ai été sidérée, et je l'ai quitté et voilà. Je pars m'installer à Paris. Je fais ces fameuses études, dans les métiers du théâtre que je voulais faire, mais qui plaisaient pas du tout à Thomas. Donc, je vais faire ce master. Je redéveloppe une vie sociale, je rencontre des gens, je me fais des potes. Et j'ai une copine qui m'offre une BD de Liv Strömquist qui s'appelle Les Sentiments du Prince Charles. Et c'est là que je commence à m'intéresser aux questions féministes, en fait. Quand je suis à Paris, c'est l'année 17-18. Vraiment, le mouvement MeToo, en fait, il arrive, quoi. On parle de viol, on parle de violence, on parle de consentement. Et je me dis, oula, mais ça me fait faire un retour en arrière, quoi, sur ce que j'ai vécu. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et en 2020, je crée un compte Instagram qui s'appelle Nos Alliés les Hommes, parce que moi, à côté de ça, je suis toujours en train de me dire, bah, qu'est-ce qui se passe avec les hommes et les questions féministes? Pourquoi ils se bougent pas et tout? Donc, je crée un compte pour les hommes qui veulent se poser la question d'être des alliés des luttes féministes. Compte sur lequel j'écris un article où je parle de Thomas en disant que c'est la meilleure personne du monde, qu'il est vraiment génial, qu'il est bienveillant, qu'il écoute. Enfin, vraiment, je l'idéalise absolument. J'étais dans une forme de déréalisation, je sais pas, je voyais pas les choses comme elles étaient. Et donc j'ai mis encore un an après ça pour me dire, ah non, mais en fait, ce que j'ai vécu avec lui dans cette relation, tout ça, c'était de la violence. Mais vraiment, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps avant de comprendre et de mettre les bons mots. J'ai fini par lui écrire pour lui dire, voilà, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui s'est passé entre nous, en particulier un soir où j'estime qu'en fait, c'était un viol et j'aimerais bien qu'on puisse avoir une discussion à ce sujet. J'aimerais bien, voilà, qu'on puisse en parler. Il m'a répondu, coucou Noëlla, je vois vite fait de quoi tu parles, mais je suis pas sûre de comprendre. En tout cas, j'ai pas le temps en ce moment, j'ai vite fait des problèmes. Peut-être qu'on aura, peut-être une prochaine fois, quoi. Je lui ai réécrit en lui disant, en fait, je pense que je me suis mal fait comprendre, j'en ai besoin qu'on ait cette discussion, en fait. Pas juste, j'aimerais bien, c'est en fait, j'ai besoin qu'on ait cette discussion parce qu'en fait, je vais mal. À partir de là, silence radio. Silence radio. J'étais vraiment genre choquée qu'ils ne me répondent pas. Et moi, je construis dans cette période-là un féminisme quand même anticarcéral où j'estime que, en ce qui concerne la question des violences sexuelles, on peut faire autrement que d'en passer par le judiciaire. Et que, en fait, la transformation, elle est possible. Vraiment, je ne suis pas du tout dans une dynamique punitive vis-à-vis de lui. Je veux juste discuter, en fait. Et quand le procès Mazan vraiment commence, quoi, et qu'on en parle dans les médias, etc., tout de suite, évidemment, je replonge dans ce gros dossier que je trimballe quand même depuis plusieurs années à ce moment-là. Et quand je comprends que ça s'est passé à Mazan, je me dis, mais ouais, c'était à côté, quoi, de chez moi. Les périodes pendant lesquelles moi j'étais à Avignon et que je passais devant le panneau de Mazan tous les jours, bah, y avait Dominique Pélicaud qui sédatait sa femme et qui la faisait violer par d'autres hommes. Enfin, en fait, je me suis dit, il y a la question de la géographie, là, de la proximité. Et en fait, ça m'a quand même fait beaucoup de parallèles aussi avec l'état dans lequel moi j'étais au moment des faits. J'étais pas sédatée. J'étais dans mon état, a priori, normal, sauf qu'en réalité, j'étais complètement sidérée. Vraiment, il n'y avait aucun signe que j'avais envie qu'il se passe ce qui était en train de se passer. Et donc, effectivement, dans le procès, ça ressort beaucoup, quoi. L'idée que, en fait, elle n'a pas le droit de dire non. Ça, c'est un peu vertigineux. Et un jour, je prenais la voiture, et donc, je vois très bien où je suis, sur la route entre Cray et Dieulfi. Et donc j'entends cette journaliste qui donne les chiffres justement du nombre de personnes qui ont subi des violences sexuelles et qui portent pas plainte. Elle donnait un pourcentage qui était au-dessus des 90%. C'est-à-dire que plus de 90% des personnes qui ont subi des violences sexuelles ne portent pas plainte, quoi. Et elle soulignait le courage de Gisèle Pélicaud d'avoir porté plainte, d'avoir levé le huis clos, etc. Et je crois que vraiment, à ce moment-là, je me dis « Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je veux pas du tout être... » Enfin, ces chiffres m'ont révoltée. Aussi en lien avec le courage de Gisèle de donner à voir et à entendre ce procès. Mais ouais, je me suis dit que je devais bien ça aussi au... C'est une manière de le rendre au monde, quoi. De le rendre à la société, de ne plus le garder pour moi en ayant honte, en ayant ma colère, en ayant des ressentiments, en ayant le besoin de justice. Je vais le rendre. Je l'ai rendu, quoi. Et donc, il y a un an, je suis allée porter plainte. Je suis allée à la gendarmerie de ma ville... pour déposer quelque part mon récit. Le fait que lui refuse catégoriquement de parler avec moi, si lui ne veut pas m'accompagner là-dedans et fournir un travail de remise en question, moi, je ne peux pas avancer sans lui. Malgré toutes mes convictions sur l'anticarcéralisme, je suis allée dans un commissariat. Parce qu'en fait, faute de pouvoir déposer ça auprès de lui, il fallait que ça sorte. Au bout de... Donc c'est quoi, 2014-2025, ça fait 10 ans que j'ai vécu ça. Moi, je vais pas passer tout le reste de ma vie à me trimballer ça. Et surtout, j'espère plus. J'espère plus qu'il me réponde, j'espère plus de... J'attends plus rien de lui, en fait. C'est plus mon problème. Et je pense que, quelque part, même si je pense que la probabilité est complètement infime, il y a encore des hommes... qui n'ont pas été identifiés. Je me suis aussi dit, si ça se trouve, en portant plainte contre lui, ils vont peut-être identifier un gars qu'ils n'avaient pas identifié. Si jamais c'est le cas et que j'ai rien fait, bah, c'est pas cool de ma part, quoi. Je me sens un peu responsable de ce que je sais. The doll people are not men, they are made of ice and glass. Our skin is clay and painted blue, our head can detach. We are statues with a pulse.
C'était le tournant Mazan, le procès qui a changé leur vie, un reportage de Manon Prigent réalisé par Anne-Laure Chanel et Clémence Grosse. Merci à Youssef et à Noëlla, ainsi qu'à Caroline Saugier et à Louise Colcombet. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. Je signale par ailleurs que nous avons consacré deux autres épisodes des Pieds sur Terre au procès de Mazan. On vous mettra les liens sur la page de cette émission-ci. Et pour ceux qui l'ignoreraient encore, n'hésitez pas à aller écouter sur l'appli Radio France ou sur le site de France Culture la nouvelle saison du formidable journal de ma vie d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Il y a 5 nouveaux épisodes, 5 journaux intimes qu'elles ont découverts et mis en onde pour vous. The doll people are alive. The art these days to be admired takes precedence over admired.